Tout de suite, on déhousse la raquette.
1, 2, 3.
Bonsoir, je suis Céline Sciamma.
Bonsoir, je suis Didier Brunner.
Et je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kenéen. Didier Brunner, vous êtes producteur de films d'animation, vous êtes fétichiste, dites-vous, de l'image animée. On vous doit notamment la découverte et les grands succès publics de Kirikou et la sorcière de Michel Oslo, ou d'Ernest et Célestine, signé Benjamin Reiner, et aujourd'hui à la tête de la société...
Et Patard et Aubier.
Autant pour moi. Et aujourd'hui, à la tête de votre jeune société Folivari, vous nous proposez Le Grand Méchant Renard de Benjamin Reiner et Patrick Imbert, qui sera en salle le 21 juin. Et quant à vous, Céline Sciamma, cinéaste, scénariste, vous êtes peut-être princesse comme celle de Clèves, ou vous êtes aussi une sorcière africaine, vous êtes un peu pieuvre, vous êtes une racaille stylée, un tomboy, une courgette animée, et vous êtes surtout actuellement, vous vous apprêtez à jouer le rôle de la présidente du jury long métrage du Festival International du Film d'Animation à Annecy, qui se tiendra du 12 au 17 juin.
Ping pong, la culture sans limite. Oh, yeah. Et
avec ce pur joyau romanesque, tu vas prendre ta soufflette d'amour courtois. Mademoiselle de Chartres, c'est une jouvencelle de Joibourg qui a tout appris de l'amour en lisant Twilight. Un jour, elle va chez Cartier et elle tombe sur le prince de Clèves qui l'optionne, cash. Et la demande en mariage. La petite, elle dit, ok, mais tu sens qu'elle n'est pas super opée.
Jean Rochefort, dans une tentative de réhabilitation, voire de coolification de la princesse de Clèves, version Bolos des Belles-Lettres, c'était dans un programme court en 2014. Mais l'auteure, Madame de Lafayette, tient aujourd'hui la plus belle des revanches contre cette légende qui l'associe à un ennui profond, voire une souffrance. Elle sera, avec la princesse de Montpensier, nouvelle écrite en 1662, la première femme à figurer au programme du bac L, et sera enfin lue par des élèves aptes à la comprendre. C'est en tout cas l'analyse qu'en fait Marie de Plechin, auteur de livres pour enfants mais pas que, qui commente dans les pages de notre partenaire Gradia cette première. Depuis 1997, date de l'inscription au programme de la terminale L d'une épreuve de littérature, avant on se contentait du bac français, aucune auteure femme ne figurait au programme du bac littéraire. Il a fallu alors pour ça une pétition lancée par une professeure de lettres du lycée d'Alfortville dans le Val-de-Marne. Pour Marie de Plechin, on avait tendance à lire trop tôt Madame de Lafayette et elle avoue aussi avoir été barbée à l'époque. Alors, est-ce que le choix de Madame de Lafayette comme première auteure au programme du bac L la surprend? Bah non. C'est une excellente idée pour elle car c'est quasiment Madame de Lafayette qui a inventé le roman au 17e et son écriture est d'une grande finesse. En plus, c'était une marrante, dit-elle. CF, sa correspondance avec sa BFF, Best Friend Forever, Madame de Sévigné. Elle, Marie de Plechin, décide même de continuer la liste, de la prolonger avec une autre auteure du 17e méconnue, Marie-Catherine d'Aulnoy, baronne au conte truculent, qui n'ont rien à envier à ceux de Perrault. Une question pour vous, Céline Sciamma, avec à la fois cette casquette de présidente du jury du long métrage au Festival International du Film d'Annecy, de scénariste de Ma vie de courgette, mais aussi bien sûr de cinéaste, et cette trilogie qui en est devenue une, peut-être a posteriori, La naissance des pieuvres, Tomboy et puis Bande de filles, c'est une initiation, c'est toujours entre 10 et 16 ans à peu près, ce sont des jeunes filles et c'est un récit d'initiation de jeunes filles par une femme. Donc pour vous, est-ce que c'est extrêmement important et nécessaire qu'il y ait des récits sur les femmes et bien sûr racontés par les femmes dès, on va dire, l'adolescence et là, en l'occurrence, en terminale?
Ah oui, ça c'est sûr. Mais là, il y a plusieurs choses importantes et on peut pas hiérarchiser la priorité, d'ailleurs, dans ce que vous dites. Il y a le fait qu'il y ait des auteurs qui étaient muselés, invisibilisés, c'est extrêmement important qu'elles soient au programme. Il y a aussi des auteurs qui étaient absolument oubliés parce qu'il y avait plus de femmes que Madame de Lafayette qui faisaient de la littérature et depuis plus longtemps, à partir de Louise Labbé. Et on ne les connaît pas. Et puis, il y a tous les personnages, toutes les choses qui nous restent à écrire. Pour un peu combler ce déficit de représentation, il y a un exemple merveilleux cette semaine avec Wonder Woman, que je recommande à tous et à toutes, qui est pour moi une date dans la question de la représentation féminine. On a enfin un blockbuster avec ses qualités et ses défauts de blockbuster, et donc ce qui en fait, qui nous est destiné, quoi. Et
C'est réalisé par la réalisatrice de Monster.
Voilà, réalisé par Patty Jenkins. Et c'est, moi, la première fois quasiment que je ressentais ça au cinéma. Et je me suis dit, ah, c'est ça que les garçons ressentent au cinéma. Étonnant qu'ils aient confiance en eux, c'est merveilleux. C'est chimiquement merveilleux.
Et la princesse de Clèves, vous en avez un souvenir?
J'en ai un, oui.
Ou la princesse de Montpensier?
Non, mais la princesse de Clèves, oui, j'en ai un souvenir, effectivement. Moi, quand j'étais adolescente, j'étais un peu à l'affût des auteurs féminines, que ce soit mes contemporaines comme Annie Ernaux, mais aussi, voilà, effectivement, Madame de Lafayette, qui a été toujours instrumentalisée politiquement. On se souvient que Sarkozy en avait fait un emblème à l'époque aussi.
Alors aujourd'hui, toutes les femmes, et en particulier les adolescentes, ont donc leur premier film de super-héroïne avec Wonder Woman, vous le disiez, Céline Sciamma. Mais les petites filles et les grandes filles et les grands garçons qui aiment le cinéma d'animation ont, fort heureusement, et un peu aussi grâce ou à cause de vous, Didier Brunner, des héroïnes, que ce soit la sorcière de Kirikou et la sorcière, que ce soit la petite Célestine dans les aventures d'Ernest et Célestine, qui vont se poursuivre dans un projet de collection de films d'animation.
Qui n'est plus un projet.
Qui n'est plus un projet, pardon, hein, qui est abouti, en effet.
Qui est diffusé en ce moment sur France Télévisions.
Autant pour moi. Il serait temps de regarder davantage la télévision et d'être moins au cinéma. Mais alors, si on reste un instant au cinéma et dans vos projets de films d'animation, il y avait une importance aussi politique pour vous, justement, à promouvoir des histoires, des grands films d'animation qui mettaient en scène des héroïnes.
Bien sûr. De toute façon, on a aussi en animation le problème d'une domination un peu historique des hommes par rapport aux femmes. Mais on voit arriver aujourd'hui dans la production des réalisatrices. Moi, avant de partir des armateurs, j'ai initié un projet qui s'appelle Les Hirondelles de Kaboul, adaptation du roman de Yasmina Kadra, et qui est réalisé par deux femmes, d'une part Zabou Bretman et d'autre part Eléa Gobé. L'une vient de l'animation, l'autre vient du cinéma plus classique. Et donc, je pense que ce genre d'aventure va se multiplier. Florence Miel va sans doute faire enfin son long métrage. Ça fait 15 ans qu'elle bataille pour ça. Et il y a d'autres réalisatrices qui aujourd'hui piaffent d'impatience de pouvoir aussi donner leur vision du cinéma d'animation. En ce qui concerne les productions que j'ai initiées, genre Kirikou et la sorcière, la sorcière, effectivement, est un personnage qui est à la fois une sorte de fantasme masculin d'une sorcière extrêmement sexy, et c'est en même temps une femme qui se venge et exerce son pouvoir de méchanceté à cause d'une souffrance qui, le film le raconte en filigrane, parce qu'on pouvait pas être trop explicite avec les enfants, à cause d'un viol qu'elle a subi, et qui est donc l'épine qu'elle a dans son dos. Cette souffrance, c'est en fait la symbolique de ce viol. Et quand Kirikou la délivre de son épine, il la délivre d'une certaine façon de cette souffrance qu'elle gère avec en se rendant méchante, en dévorant les hommes, en étant mangeuse d'hommes.
Ce soir, nous regardons le conte par un autre bout avec vous, Didier Brunner, et vous, Céline Sciamma, c'est dans Ping Pong.
Je m'appelle Camille.
Mathilde Serrel.
Moi, c'est Courgette.
Martin Kénéen, Ping Pong. C'est sur France Culture.
Hé, la nouvelle. Raconte-nous un peu pourquoi t'es ici.
Ah, toi t'es le chef, c'est ça?
Exact.
Et faut faire tout ce que tu dis.
Ouais, voilà, ouais, t'as tout pigé. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut leur parler aux filles.
D'accord. Je suis là parce que ma mère, tous les matins, elle m'obligeait à aller déguiser en dinosaure à l'école.
Ah ouais. Hé, tu me cherches là? Fais gaffe, je rigolerai pas à ta place.
Tu dis rien, Courgette?
Oh non, mais ça c'est parce qu'il est amoureux, hein.
Pff, n'importe quoi.
Mais bien sûr, mec, ça se voit à des kilomètres que t'es amoureux de Camille.
J'aimerais juste savoir pourquoi est-ce qu'elle est là.
Bon, tu veux vraiment savoir pourquoi elle est là?
Alors,
Intéressant. Ok, bah si tu veux, elle a tué un mec. Parce qu'il est amoureux d'elle.
Quoi?
Je me méfierais à ta place. La meuf, elle a un problème avec les mecs qui ont des noms de légumes. Il s'appelle Carotte, le mec.
Bah arrête!
T'as eu peur, hein? Pour de vrai, là, en fait. Son père, il a tué sa mère. Parce qu'elle aimait un autre type. Puis, il s'est suicidé.
Montre.
Et puis, c'est même marqué que Camille, elle a tout vu.
Ah ouais. Ça se voit dans ses yeux. Ça se voit qu'elle a tout vu.
Ma vie de courgette. Film signé Claude Barra, dont vous signez le scénario, l'adaptation. Ce scénario qui est ce film, Céline Sciamma, qui a été récompensé à Angoulême, à Saint-Sébastien, de César, qui est aujourd'hui disponible en DVD et qui sans doute participe au fait que vous êtes aujourd'hui présidente du jury long métrage de ce Festival international du film d'animation d'Annecy, qui débutera le 12 juin. On entendait là les voix des enfants qui donnent leur voix à tous ces personnages autour de Courgette dans ce foyer où vit votre héros, des enfants qui ne sont pas des acteurs professionnels, que vous avez choisi en particulier pour cette raison. Et vous avez pu déclarer autour de ce film que ce que vous aimiez dans le fait de vous être prêté à cette aventure de Ma vie de courgette, c'était de prendre au sérieux les enfants, à la fois comme personnages, mais aussi comme spectateurs. Et aujourd'hui, vous êtes donc présidente du jury à Annecy. On imagine que vous allez essayer de, et vous l'avez sans doute toujours, conserver votre regard d'enfant pour voir les films en compétition, et si oui, ce que je subodore, qu'est-ce que regarde, qu'est-ce que retient un enfant selon vous?
Bah justement, moi je fais pas trop la partition, la division entre un regard d'adulte et un regard d'enfant. Je crois que c'est précisément l'endroit où c'est prendre les enfants au sérieux, c'est-à-dire j'ai pas l'impression d'avoir à la fois une plus belle âme ou une moins belle âme qu'avant, enfin... Justement, c'est considérer les enfants comme des regards à un moment donné de leur vie aussi, leur existence, pas juste en tant que catégorie d'enfants. Je pense qu'il y a des enfants qui sont plus ou moins sensibles à des thématiques, à des rythmes. Et c'est ce qui était beau dans l'aventure de Courgette, effectivement, c'était que le rythme précis de ce film, sa musique, la façon dont les dialogues étaient écrits, dont les enfants s'en sont emparés, le rythme de l'animation, a créé une espèce de bien commun et a créé, oui, un regard, on a le sentiment que tout le monde regardait la même chose, quoi. Et donc pour moi c'est ça, avoir son regard, quoi. C'est pas, oui, je fais pas la division entre le regard d'enfant et le regard d'adulte, ni entre les rêves d'enfant et les rêves d'adulte.
Vous avez le souvenir de moments de regard d'enfant sur des films d'animation au cinéma?
Absolument. La première image que je me souviens de même de ma vie, de toute ma vie de spectateur de cinéma, c'est, je suis rentrée dans la séance, c'est le premier film que je voyais et on était en retard. Et donc il y avait l'image à l'écran en noir et c'était le Brisby et le secret de Nîmes, qui est un film d'animation de Don Bluth qui est merveilleux. Et c'était la main d'un vieux sage, une espèce de père Fouras, on va dire, du film, en très gros plan, ridé avec des bagues comme ça. Et une voix très très puissante de, je sais plus quel était cet acteur français qui faisait la voix, mais c'était une voix incroyable. Et donc ouais, ma première image de cinéma, c'est une image d'animation et d'un très gros plan, d'une main très intimidante, très impressionnante, et elle est restée gravée.
Et l'importance des voix dans les films d'animation, je pense que c'est essentiel.
Didier Brunet.
Ce qui fait vraiment le côté authentique et bouleversant de Ma vie de courgette, c'est les voix des enfants. Enfin, je veux dire, c'est
qui ne sont pas professionnels.
Qui ne sont pas professionnels et qui amènent une sorte de vérité sur un monde totalement virtuel, et c'est la rencontre entre ces deux choses qui fait que ce film est absolument si ensorcelant, quoi.
En sorcelant Ma vie de courgette. Faut le rappeler aussi, puisque vous êtes présidente du jury du long métrage Festival international du film d'animation Céline Sciamma, qui l'avait reçu, hein, ce film Cristal du long métrage en 2016. On peut rappeler peut-être les thèmes de ce film si ensorcelant. Oui. C'est qu'on se retrouve donc avec Courgette qui perd sa maman. Il va se retrouver dans un foyer avec d'autres histoires, d'autres enfants, des parents drogués, des pères incestueux. Lui, donc, c'est une mère violente. C'est ça qui fait que c'est aussi un thème très grave, en même temps avec ce qu'il faut de distance, ce qu'il faut de légèreté. Peut-être que c'est un film qui pose deux tendances ou de axes de l'animation à la française. C'est à la fois, comme vous le disiez Céline Sciamma, dans le scénario, il y a quelque chose qui n'est pas là pour consoler, mais qui est là pour aider à surmonter. C'est peut-être ça par rapport à Hollywood, à l'école hollywoodienne, la marque de l'animation française. Et puis deuxièmement, évidemment, ce style en plan séquence qui est pas du tout cartoonesque, suranimé. Donc en quoi il y a dans Ma vie de courgette pour vous deux axes de ce que peut être l'animation à la française?
Parce qu'il y a de l'auteurat, voilà, il y a de l'auteurat, et quand je dis l'auteurat, c'est il y a un auteur, effectivement, qui centralise toutes les décisions, et ça, je crois que c'est globalement la politique des auteurs du cinéma français, ou du cinéma européen, on peut dire. Et donc là-dessus, l'animation n'échappe pas à cette politique des auteurs, on va dire, ouais, françaises ou européennes, contrairement au travail des studios américains. Donc plus d'indépendance et puis un cinéma plus pauvre et être pauvre c'est pas facile, mais ça peut aussi donner un peu plus de latitude, de liberté dans ce qu'on veut raconter et comment.
Et sur le plan du scénario, puisque c'est aussi la scénariste de Ma vie de courgette que j'interrogeais là-dessus, c'est-à-dire cette idée de surmonter plutôt que de consoler. Est-ce que ça, c'est un axe en France d'aller peut-être un peu plus face au mal, en tout cas d'avoir sa manière de le raconter et pas de dire que tout va bien se passer?
En même temps, moi, je trouve les films d'animation américains assez courageux sur la question de quoi on se console. Hein, parce que si on prend Vice Versa, c'est quand même la question de la dépression d'un enfant, en tout cas la dépression qu'est l'adolescence comme dépression. Et le film est puissamment consolatoire, quoi. Et pour moi, être consolé et surmonter les choses, c'est pas si éloigné. Donc je comprends votre distinction, mais il faut que j'y pense.
Dans les films de studio américains, il faut faire la différence entre les films de studio, art studio, je dirais Universal, DreamWorks, et les films qui sortent aujourd'hui de chez Pixar, aux commandes de Pixar, quelqu'un qui a été un auteur, qui est John Lasseter, et qui est un très grand, c'est l'équivalent de Walt Disney, quoi. Il a créé un studio autour de ses projets d'auteur et de son univers, et a commencé par Toy Story.
Et on a l'idée, vous évoquez Toy Story, Didier Brunner, que ce cinéma américain d'animation des grands studios, parce que Pixar s'est marié avec Disney et aujourd'hui une énorme machine industrielle également, que l'image de synthèse, pour le dire comme ça, est reine, qu'il y a quelque chose de très sucré, de très coloré, de très qui fait penser au goût du Red Bull, cette boisson énergisante dans quasiment chacune de ces œuvres, de ces films d'animation. Est-ce que vous, qui avez pu produire, on le disait, Ernest et Célestine, ou les triplettes de Belleville de Sylvain Chaumet. Si vous avez affaire à ce cinéma d'auteur qu'évoquait Céline Sciamma, c'est parce qu'au fond, en France, c'est d'abord ça qu'on vient vous proposer. Ou est-ce qu'il y a aussi des tas de projets comme ça, blockbusters et synthétiques?
Je crois que dans nos gènes, on est un pays de cinéma d'auteur. Et pour l'animation, ça se vérifie depuis Kirikou, c'est-à-dire que quand on récapitule Michel Oslo,
Les triplettes de Belleville.
Sylvain Chaumet.
Oui, Sylvain Chaumet. Oui. Je Benjamin, me disais que là,
Benjamin Reiner. En tout cas, c'est tout des cinéastes qui arrive avec une vision, avec un projet qui leur est totalement personnel et propre, et que le producteur, en fait, intervient surtout pour l'aspect économique et le montage financier. Moi, j'adore être dans le sillage d'un auteur, travailler avec un auteur et essayer de lui donner au maximum les moyens de faire son film. Je pense que c'est des conteurs, c'est des gens qui savent bâtir une histoire, après que cette histoire soit une histoire moralisatrice ou une histoire plus libérée par rapport à la morale, comme les triplettes de Belleville ou même quelque part Kirikou. En tout cas, je pense que le cinéma d'animation français est éminemment un cinéma d'auteur. Et même quand il essaye de ne pas l'être, il n'y arrive pas. Le Petit Prince, ça a été pris en main par un réalisateur américain qui s'est éclaté comme un malade, parce que avant il était dans les carcans des studios américains. Il a fait un film qui pour moi n'est pas parfaitement et totalement réussi, mais il a fait un film d'auteur quand on regarde par rapport à ce qu'il faisait avant avec Kung Fu Panda ou des choses comme ça. Donc, pareil pour Besson, qui a milité fortement pour faire un cinéma en 3D, en synthèse, comme les Américains, mais n'empêche qu'il a fait un film...
Arthur
avec...
et les Minimoys.
Oui, mais après, il a fait La Mécanique du cœur, il a fait Un monstre à Paris, qui sont des films Mathieu Malzieux et...
Mathias
Malzieux, pardon, et Bibo Bergeron, qui sont des cinéastes, qui sont des cinéastes, tout simplement. Et donc, moi, je crois que on est aujourd'hui très bon dans un cinéma d'auteur artisan en Europe. Et c'est ce qu'il faut qu'on défende et qu'on développe. Et c'est comme ça qu'on existe. Et c'est comme ça que nos films se vendent et se regardent.
Le grand méchant ours, quand il se réveille, il a faim. Et qu'est-ce que le grand méchant ours préfère?
Une petite souris.
Toute crue, c'est comme ça qu'il les préfère, toute vivante.
Mais vous êtes sûr qu'il est si méchant?
Comment tu t'appelles?
Hein?
Je m'appelle Kirikou. Moi, c'est Célestine.
Tu as du toupet, hein?
Pourquoi?
Hein?
Carapa, la sorcière, est-elle méchante?
Est-ce qu'il doit y avoir une raison?
Oui.
Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Mais il est vaillant.
Kirikou est petit.
Ernest et Célestine, Kirikou, bien sûr, mais aussi la musique des Triplettes de Belleville. C'est un entrelacs de ce que l'animation française a pu produire et que vous avez produit. Didier Brunner, ce sont des films qui ont eu un succès aussi à l'étranger. Vous parlez d'une forme d'artisanat d'art pour l'animation française, dans ses méthodes de production, dans son long-termisme. Qu'est-ce qui fait le succès, par exemple, immédiat des Triplettes de Belleville de Sylvain Chaumet? Ernest et Célestine, ça a été en lice aux Oscars également. Enfin, en général, voilà, ce sont dans les films qui sont nommés aux Oscars, ce sont les films d'animation française. Et puis, en Europe, on est le pays qui vend le plus de programmes d'animation.
Bah déjà, ce sont des dessins animés, c'est-à-dire des véritables graphismes avec des partis pris forts, avec aussi une certaine liberté de raconter, de bâtir une histoire. Avec les Triplettes de Belleville, on est parti sur un projet qui était au départ un court-métrage qui racontait l'éducation d'un jeune champion par sa vieille tante pour le Tour de France. Et à partir de là, Sylvain Chaumet, qui était en train de imaginer un court-métrage, un jour me téléphone et me dit « Il faut que tu viennes voir le storyboard parce que je crois que j'ai un peu dépassé les limites ». Et le film qui devait durer 26 minutes, il nous a étalé le storyboard sur le mur avec Colin Rose de la BBC qui était coproducteur, on avait un film d'une heure vingt, totalement sans parole. Et c'était évident que c'était le film qu'il fallait produire, qu'il fallait faire. Et à partir de là, on a tout révisé. On est d'un court métrage, on a essayé de bâtir un budget pour un long métrage, et on est parti dans l'aventure du film sur une espèce de projets qui étaient issus de l'imaginaire d'un cinéaste qui en plus amenait son univers graphique, qui était extrêmement original et extrêmement fort. Et je crois que ce qui marche aujourd'hui avec le cinéma d'animation français et même européen, c'est que on a recours à toutes les diversités techniques de l'animation, à la richesse que représente l'animation. Aux États-Unis aujourd'hui, on ne fait plus que de la 3D et de l'image de synthèse parce que ça marche, parce que c'est la technique qui est efficace en termes de box-office. Il y a des techniques qui sont effectivement la stop motion, comme ma vie
l'image
Courget,
par image,
l'image par image, le dessin animé traditionnel, la peinture animée comme fait Florence Miel. Il y a vraiment le papier découpé. Je veux dire, on a des techniques qui sont toutes plus magiques les unes que les autres et qui ouvrent en plus l'imagination sur la technique et la narration et la dramaturgie. Il y a une symbiose, il y a quelque chose qui fonctionne ensemble. On fait pas un film en dessin animé comme on fait un film en 3D, en CGI. Donc, je suis pas un passéiste adepte de toutes les techniques classiques et traditionnelles.
Vous n'êtes pas pour l'eau forte animée, mais presque.
Je suis pas pour l'eau forte animée, mais je suis pour la diversité et la richesse de l'animation, parce que c'est ça qui est génial dans cet art, c'est que avec la pixilation, enfin, on peut mettre en mouvement, on peut faire jouer tous les petits objets ou tous les dessins, toutes les poupées inanimées qui peuvent se mettre à parler, devenir des acteurs et devenir des acteurs puissants qui ont les mêmes capacités d'émotion que les acteurs vivants. Ma vie de courgette, de ce point de vue-là, est un exemple magnifique, quoi. C'est-à-dire des dialogues qui pourraient être des dialogues d'un film de prise de vue réelle, avec ces poupées qui jouent ces personnages. Ce décalage fait que le film devient encore plus fascinant, l'histoire devient encore plus forte.
Mais alors, on parle avec vous, Didier Brunner, vous nous chantez la dimension magique, artisanale, mais aussi artistique du cinéma d'animation français et européen. Vous nous chantez les mérites et toute la beauté de Ma vie de courgette, dont vous êtes l'auteur du scénario, Céline Sciamma. Mais il faut quand même, sans paraître trop passéiste, rappeler que cette imagination qui est la vôtre et qui vous a mené en particulier à signer donc ce scénario pour Ma vie de courgette et qui vous mène aujourd'hui à la présidence du jury de ce festival international du film d'animation d'Annecy, c'est génial à dire.
Madame la présidente, allez,
C'est d'avoir regardé les dessins animés du Club Dorothée et Cat's Eyes en particulier. Alors qu'est-ce qui, dans cette animation qui n'avait rien de magique, a pu malgré tout vous fasciner et vous nourrir?
Alors moi j'ai une admiration sans borne pour l'animation japonaise dans toute sa variété et sa diversité, d'ailleurs, que ce soit les grands maîtres
et même ses répétitions un peu industrielles de ces dessins animés au kilomètre.
Mais il y avait justement, on parlait de regard d'enfant et de rythme, il y avait un rythme par exemple dans Olive et Tom, dans le fait qu'il y ait une image sur 20 qui soit animée, dans les parties prises de mise en scène étaient extrêmement forts, donc c'était très engagé.
C'était l'expressionnisme japonais.
C'était complètement. Il y avait des ralentis, il y avait des plongées, des contre-plongées. Il y avait de la mise en scène. Et surtout, il y avait du scénario. Moi, Cat's Eyes, c'est un scénario que je trouve admirable.
Les sœurs cambrioleuses.
J'adorerais l'adapter.
Elles volent des tableaux et elles sont en combinaison moulante.
Oui, mais elles volent des tableaux qui ont tous été faits par leur père.
Bien sûr.
Parce qu'il y a un mystère sur sa mort. Elles cherchent à retrouver le dernier tableau. C'est hyper beau. Ça pourrait être un épisode de Tintin.
Elle s'appelle Alexia, t'as mis Sylvia.
On va pas vous chanter le générique, mais le cœur y est.
Mais justement, il y a cette idée pour l'animation française de devoir trouver sa place entre deux continents d'animation, que ce soit l'animation japonaise et l'animation américaine. Il y a un livre, un peu une somme, qui sort ces jours-ci sur l'animation française. Donc c'est un monsieur qui va être reçu un petit peu partout à propos de ce livre. Et donc Sébastien Lodenbach qui a fait La jeune fille sans main.
Magnifique.
On l'avait reçu ici. A été interrogé à ce sujet. Il a reçu aussi, entre-temps, le prix France Culture du cinéma et des étudiants. Et donc, il parle de l'animation française comme d'une ère adolescente, en fait, pour l'animation française, qui se trouve, qui se réinvente, justement, entre ces deux continents de l'animation japonaise et de l'animation américaine. C'est pas du tout son âge d'or. Elle est en pleine adolescence. Vous seriez d'accord avec cette définition, Céline Sciamma ?
Moi, je trouve ça toujours bon signe quand l'âge d'or est devant. Donc,
et l'adolescence, c'est bon signe, connaissant votre cinéma. Ouais.
Oui, c'est donc, ça vous correspond bien, mais peut-être voilà cette idée que c'est pas l'apogée de l'animation à la française, mais qu'au contraire, elle est dans la transgression, elle est en plein dans la transgression, l'animation française.
Oui, et puis elle est fragile parce qu'elle a connu des succès récents, notamment des succès en salle, mais il y a quelques années, il y a eu un moment entre le grand succès de Kirikou par exemple et puis le succès de Ma vie de courgette. Si on prend ça comme deux extrêmes, il y a eu aussi des années noires. Avec des très beaux films qui n'ont pas rencontré le public. Donc elle est aussi fragile dans la mesure où elle doit toujours se réinventer parce qu'elle est face à un marché. Enfin, voilà, c'est aussi le marché qui en a beau être des artisans. Ses succès racontent qu'il y a de l'appétit. Cet appétit raconte qu'il y aura des auteurs qui auront plus de liberté et l'âge d'or sera toujours devant nous, j'espère. Ouais.
Il y a quelque chose de stimulant, Didier Brunner, pour vous qui avez reçu le Grand Prix à Annecy en qualité de producteur, pour Kirikou qui avait reçu l'an passé le Cristal d'honneur de ce festival pour toutes vos productions, de vous dire qu'aujourd'hui, ce cinéma que vous défendez, que vous élaborez aussi avec les auteurs, avec tous les techniciens qui le créent, eh bien, il est dans son adolescence. Ça vous plaît d'être adolescent aujourd'hui ?
Moi, je pense qu'il est dans sa jeunesse, oui. C'est-à-dire que le cinéma d'animation, il date, ça fait 20 ans aujourd'hui qu'il commence à bourgeonner, à produire des films. Là, le CNC vient d'annoncer qu'il y a eu 10 agréments donnés à des films d'animation cette année, ce qui est un record absolu. J'espère que ça va continuer parce qu'en plus c'est tous des films intéressants. Enfin, il y a des films qui, en plus, l'animation ne s'adresse plus maintenant pas uniquement aux enfants. On parlait des Hirondelles de Kaboul, mais il va y avoir Funan, le film de Denis Do produit par les films d'ici. Il y a eu bien sûr Valse avec Bachir, qui sont aussi un usage de l'animation à des fins à la fois documentaires et politiques.
Ça effraie même le pouvoir chinois, qui vient de retirer de la programmation officielle de la compétition du Festival d'Annecy Have a Nice Day de Liu Zhuan.
Ça, je trouve ça... Enfin, je pense
que... décerne le Grand Prix officiellement maintenant.
Voilà, il faut lui décerner
le Grand Prix. Avant même le début du festival.
Non, et bon, l'animation européenne est dans son adolescence. Moi, j'adore cette idée. Et je rejoins totalement Céline sur l'admiration et l'influence qu'a pu exercer le cinéma d'animation japonais, qui est un très grand cinéma avec des grands auteurs comme Miyazaki, Satoshi Kon, Takahata. Et moi, un de mes films fétiches, c'est le Tombeau des Lucioles, qui est un film qui traite d'un sujet, un réalisme onirique, quoi. C'est-à-dire que, à la fois, il traite de sujets.
C'est la guerre, le Tombeau des Lucioles.
C'est la guerre, c'est Hiroshima, c'est ce qui s'est passé en 45, raconté comme une fable, et c'est un film d'une puissance absolue.
Nausicaa, la vallée du vent, c'est une fable aussi écologique d'Hayao Miyazaki sur justement le post-nucléaire au Japon. Donc, est-ce que pour vous, il y a eu un problème à un moment, il y a une sorte de malentendu sur l'animation? On l'a vu dans des phénomènes de censure aux États-Unis, on avait parlé de Sausage Bob ici, hein. Une confusion sur l'animation, c'est pour les enfants, quoi. Il y a eu un petit hiatus là-dessus. On avait oublié qu'il y avait eu des choses dans les années 70 qui avaient quand même posé des bases pour que le cinéma d'animation soit un genre à part entière et qui s'adresse effectivement à adultes, enfants et tout. Il y a eu une petite...
Oui, bah, le cinéma d'animation est né pour comme avec la réputation d'être un cinéma pour les enfants, avec évidemment la domination de Walt Disney pendant des années et des années. Pendant 50 ans, les films d'animation qu'on attendait chaque année, c'était des films de Disney. C'est vrai que là, aujourd'hui, l'animation se libère grâce aussi à Internet, avec des programmes pour jeunes adultes qui sont des programmes souvent un peu provocateurs et un peu trash. Aux États-Unis, ça se développe, ça bourgeonne. Et en France, de plus en plus, au Cartoon Movie, où chaque année on se rencontre et on fait un bilan de tous les films en projet ou en développement, l'année dernière, il y avait plus d'un tiers des films qui étaient dédiés à un public adulte et adolescent.
Oui, on parlait de cinéma japonais, comment ne pas citer Akira, qui a pu marquer les adolescents à vie.
Et Téhéran Tabou, qui sera en compétition à Annecy, au festival cette année, qui a été présenté à Cannes, d'Ali Souzandeh, excellent sur les interdictions multiples et variées en Iran.
Bon, on fait la course. Et le dernier arrivé, il lave mes slips jusqu'à la fin de sa vie. Allez, go !
1, 2, 3.
Un petit extrait de Ma vie de courgette pour le plaisir. Et ce dialogue, Céline Sciamma, bravo. Donc le premier arrivé, bah voilà quoi, hein, on lavera les slips à la fin de l'émission de ping-pong. En tout cas, je le dis au passage, hein, le livre de référence sur l'animation française qui vient de sortir, c'est Laurent Vallière aux éditions La Martinière Cinéma d'animation, La French Touch. L'émission continue avec un loup et un renard, pas si prédateur, et bien sûr un roi et un oiseau, toujours en la compagnie de Didier Brunner et de Céline Sciamma.
Ping-pong. La culture sans limite.
Alors, il y a les fermes bien françaises, comme celle du grand méchant renard, dont on va parler dans un instant, et puis il y a les jardins anglais, où on le sait depuis au moins Peter Greenaway, l'assassinat est considéré comme un des beaux-arts. Et c'est dans un jardin anglais que le chanteur et poète britannique Benjamin Clementine a tourné le clip de sa dernière chanson, nimbé de clavecin, mais aussi de souvenirs d'enfance plus ou moins traumatiques, et de réminiscences de lecture de Donald Winnicott, Phantom of Aleppoville, le nouveau morceau de Benjamin Clementine.
Given. Come on out, Zacchaeus. Come down from your sycamore tree. Where dancing roses are found, dancing. For me, the difference between love and height. Why is the same difference between risotto and rice pudding? And the difference between a dog and a stranger. Why is the same difference between children and bullying? Some say they wonder why you bullied me, but I laugh, 'cause I know that you know that we will never, never know why they keep the bullying so. Forgiven, Billy, bully, 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 it's all right.
Phantom of Aleppoville, la nouvelle chanson écrite, enregistrée et produite par Benjamin Clementine lui-même. On se croirait sur un tournage de Céline Sciamma, c'est bien dans votre manière très démiurgique d'aborder vos œuvres. Benjamin Clementine qui a débuté dans le métro parisien et qui revient en concert en majesté demain à 19h au festival musical et éco-responsable We Love Green dans le Bois de Vincennes à Paris.
Les spectateurs sont là, dépêchez-vous!
Attends, je suis pas prêt!
Ping-pong.
Bonjour, cher public, nous allons ce soir vous interpréter trois pièces. Mesdames, messieurs, voici
le grand méchant renard!
Ah non! C'est la troisième fois cette semaine! Ça suffit!
Non, mais c'est parce que j'ai faim en fait.
Je m'en fiche!
Pourtant, j'ai tout fait comme toi.
C'est-à-dire?
Mais tu sais, le truc que tu fais là!
Ah, ça!
C'est ça. À table.
Maman, comment ça, maman?
Non, mais je suis pas une poule. Vous êtes des poussins. Vous devez avoir peur de moi.
C'est quoi ce cri, maman?
Monsieur Lou est un peu colère.
Oh, mais tais-toi. Tu vois pas que j'essaie de te sauver la vie?
Bon, j'aurais essayé.
Vos poussins ont tenté de mordre certains de leurs petits camarades.
Et ils ont essayé de dévorer Michel.
Bonjour, madame.
Et si à partir de maintenant, on devenait des adultes responsables?
Ouais, enfin, il tombe surtout.
Fini les jeux idiots, les gamineries.
Maman va casser la figure au vilain monsieur.
C'était bien ?
Excellent.
De l'autre côté du miroir, rien ne se passe comme prévu avec le grand méchant renard et autres contres de Benjamin Renner. Ce sera en salle le 21 juin et Patrick Imbert, bien sûr. Vous le produisez également, Didier Brunner. On peut parler peut-être précisément de ce scénario, de cette idée d'instinct maternel, d'un loup qui va être terrorisé par les poules, essayer de montrer qu'il est prédateur, manger des œufs qu'il n'arrive pas à manger parce que finalement, voilà, il développe cette fibre inattendue. Ça aussi, c'est dans l'animation à la française, ce renversement complet des positionnements manichéens des personnages, comme le loup.
C'est un renard transgenre, je dirais. C'est un renard qui rêve de devenir une poule. Et
qu'on appelle maman.
Qu'on appelle maman. Et du coup, ça lui révèle sa véritable identité. C'est-à-dire qu'il savait pas, mais il était pas renard, il était poule, en fait. Et c'est ça qui est infiniment drôle dans le conte de Benjamin, c'est que il joue avec cette ambiguïté du renard qui en fait se refuse comme étant une poule, mais profondément dans ses gènes, il a l'instinct d'être une poule et les petits poussins ne s'y trompent pas.
On peut dire juste un mot de Benjamin Renner, qui est quand même à la base donc auteur de cette bande dessinée Le Grand Méchant Renard, qui va recevoir un prix au Festival d'Angoulême, hein, décerné par un jury d'enfants, le Grand Prix de Jeunesse. Et puis c'est aussi lui, tout juste sorti de son école, La Poudrière, à la cartoucherie de Bourg-les-Valences, qui fera Ernest et Célestine. C'est un des grands prodiges pour vous de l'animation française?
Pour moi, ça a été... vraiment un coup de cœur quand j'ai rencontré Benjamin. Je cherchais quelqu'un pour réaliser Ernest et Célestine et pouvoir adapter le graphisme de Gabriel Vincent, qui était sacrément compliqué. Et quand la première fois que je l'ai vu, je lui ai montré les dessins et il est parti avec. Il est revenu 10 jours plus tard avec des petites séquences en sketch dessinées avec simplement au crayon qui bougeaient de façon extraordinairement expressive et qui avait trouvé la solution pour adapter le dessin de Gabriel Vincent. Bon, je crois que c'est un dessinateur vraiment génial, quoi. Il a un coup de crayon unique. Le grand méchant renard, les personnages sont extrêmement simples, mais extrêmement expressifs et extrêmement identifiés les uns les autres. Et ils ont le ton de ce film est à la fois humoristique, tendre, gentiment méchant, gentiment décalé. C'est on retrouve ça dans certains dessins de presse.
Voilà, exactement. Ouais. Moi, je pensais à Charlie Hebdo en regardant, non pas pour le mauvais esprit bête et méchant, mais en particulier pour le coup de crayon qui est très cartoonesque dans cette adaptation de Benjamin Reynard de sa propre bande dessinée, Le Grand Méchant Renard. Et la campagne de promotion promet qu'on ne verra plus la campagne comme avant en découvrant donc ce Grand Méchant Renard et les contes qui l'accompagnent, puisqu'il y a trois spectacles dans ce grand spectacle que proposent les animaux de cette ferme. Mais à propos de campagne, il se trouve que vous, Céline Sciamma, vous avez grandi en lisière de la forêt de Cergy. Quelle idée de la campagne, quelle drôle de campagne vous aviez enfant.
Et quelle idée de la forêt aussi, parce que ça pour les contes c'est important.
Il y avait déjà des renards transgenres et des loups plutôt sympathiques à Cergy.
En tout cas c'était la banlieue qui était à la fois la banlieue comme elle peut être en fait, qui peut souvent être aussi nichée au cœur de la nature. Il y a plein de types de banlieues et celle-là effectivement c'était un bois. On ne peut pas dire non plus une forêt. Mais le bois, et c'était l'espace à la fois où on pouvait jouer, on était libre, où on croisait les exhibitionnistes, en même temps, c'est à la fois les grands fantasmes des histoires intemporelles, et puis en même temps, encore une fois, ce contexte. Et voilà, des ambitions de cabane, surtout. C'est surtout ça pour moi, la forêt.
Vous disiez que ce renard, avec ses oreilles de guingois, qui est donc, on peut dire presque le monsieur, enfin, qui est le monsieur loyal et le héros de ce film, Le Grand Méchant Renard, il se découvre poule. Vous êtes découvert, un totem, poule. Un animal totem, comme dans les tribus indiennes, en produisant ce film?
Ah ben, moi, je m'identifie totalement à ce grand méchant renard. Je trouve que c'est un personnage quelque part, je sais pas si Benjamin
m'a tendu un miroir,
mais je m'identifie vraiment, je suis tout à fait séduit par ce personnage qui dont la nature aurait dû faire un méchant et qui devient maternel avec des poussins qu'il devrait avoir envie de dévorer, et qu'il a envie de dévorer d'amour, quoi.
Sans oublier quand même, on parlait de chinois tout à l'heure, l'apparition d'un petit animal chinois avec un accent incroyable. Ça c'est quoi? C'est un petit signal au marché chinois du film d'animation.
Oui, c'était pour séduire, c'était pour vendre le film en Chine évidemment.
Alors est-ce qu'on peut revenir, puisque on a passé un tout petit peu de temps sur le graphisme de l'animation française, parce que vous avez souligné l'idée que c'était à la fois dans la diversité du graphisme de l'animation française qu'il y avait une richesse et en même temps une difficulté aussi dans l'exportation, parce qu'il n'y a pas de style référencé comme il peut y avoir pour l'animation japonaise ou l'animation américaine. Qu'est-ce qu'il y a dans ce graphisme-là ou dans le graphisme de Ma Vie de Courgette de supplémentaire en termes de projection, en termes d'espace imaginaire par rapport aux autres formats d'animation?
Il y a de l'inattendu et de la créativité. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est quand on découvre l'univers d'un auteur de dessin animé, un auteur européen, à l'audace de faire le film qui est son film, y compris dans son parti pris graphique, sans avoir de référent à un style qui serait un style... qui est souvent un style marketé, parce que le CGI aux États-Unis, l'obligation de faire des films en CGI aux États-Unis,
en image de synthèse,
c'est faut quand même en être conscient, d'abord et avant tout pour des raisons de box-office et de marketing. C'est-à-dire que Disney a essayé de refaire un film en 2D qui était Réponse, je crois.
Et non, Réponse est aussi pas en image de synthèse que des mecs classiques.
Non, c'est... en tout cas, il y a eu une tentative de Disney vers l'animation 2D. Et ils ont rapidement vu que ça ne marchait moins bien que les films en CGI. Et ils sont revenus dardard vers la technique du CGI qui aujourd'hui a formaté aussi le goût du public. C'est-à-dire qu'on entend des réflexions dans les salles de cinéma quand il y a des bandes-annonces qui passent, une en CGI de DreamWorks et une en 2D. Je crois que mon fils m'a raconté une anecdote comme ça. Dans un cinéma, il y avait deux bandes-annonces, Tout en haut du monde, le film de Rémi Chaillet, et la bande-annonce d'un film américain en CGI, et la réflexion d'un monsieur avec sa femme derrière, disant « Ah, ça, c'est de l'animation !» Voilà, c'est-à-dire que on a quelque part formaté le goût du public, on a rendu les gens addicts à une certaine forme de représentation qui est regrettable, et c'est l'antidote à ça, c'est le cinéma d'animation tel qu'on le fait aujourd'hui en France et en Europe, c'est-à-dire qu'on est ouvert à toutes les techniques, à toutes les formes de graphisme, à toutes les formes de récit, et il n'y a pas de marquetage de la création, quoi.
Mais alors ce formatage des imaginaires, il se fait aussi dans les genres, parce que vous avez pu dire, Céline Sciamma, quand vous vous êtes engagée sur le projet Ma vie de courgette, que vous étiez contente qu'on vous propose autre chose qu'un film de fantasy. Qu'est-ce que vous avez contre, quel problème vous avez avec la fantasy qu'on imagine en effet volontiers, je pense dans les cellules de marketing, être adaptée au goût du public enfant ou adolescent ?
Non, moi j'étais déjà contente qu'on me propose de faire un film d'animation, et vu ce que j'avais produit avant, je doute qu'on me propose une grande fantasy. Donc j'étais pas du tout en train de, c'est quelque part c'était rassurant. Je me disais que j'avais une forme de compétence, quoi. On venait me chercher pour un truc que je savais à peu près faire, et que du coup dans mon inexpérience d'écrire pour l'animation, j'étais pas confrontée à des enjeux qui sont justement
de faire parler des dragons,
voilà, de faire voler des éléphants. Mais j'adorerais. Entendons-nous bien, j'adorerais absolument, je ne veux pas du tout opposer, d'ailleurs on n'est pas du tout en train d'opposer, je crois, dans ce qu'on dit, la question de la fantaisie, la question d'une forme de naturalisme, je ne sais plus ce que c'est votre question.
Non, c'était ça. C'était si vous aviez un problème en particulier avec les princesses guerrières et les dragons volants.
Non, elle est ok sur les dragons.
J'aimerais beaucoup faire parler des animaux. Ça, c'est un vrai truc, quoi.
Ça, c'est un prochain projet.
Faire parler des animaux, quoi.
De Céline Sciamma. En tant que présidente du jury du Festival international du film d'animation d'Annecy qui va s'ouvrir ce lundi, Céline Sciamma, à quoi vous serez attentive, justement, dans, que ce soit dans le graphisme ou dans les ressorts scénaristiques, qu'est-ce que vous attendez, justement?
Bah, je crois qu'on se met à être attentif à un truc ou à un autre quand on n'a pas été totalement ravi, dans le sens de ravissement, quoi. J'espère que j'aurai à être attentive à rien en particulier, c'est-à-dire que je serai absolument submergée par un ou plusieurs films. Et ensuite, voilà, dans le difficile exercice, il y a deux, jury, c'est merveilleux parce qu'on voit plein de films, et ensuite, le moment le plus difficile, c'est qu'il faut soudainement les hiérarchiser. Et on commence à être attentif à un point ou à un autre, quand en fait, on n'est pas décidé. Donc, c'est évident que, de toute façon, un film, pour qu'il me plaise, il faut déjà qu'il soit pas sexiste, par exemple, vous voyez, donc je vais pas commencer à être attentive à cette question.
Il faudrait qu'il soit pas sexiste.
Sur vos gardes.
Et sur le plan des images, par exemple.
Non, mais moi, graphiquement, il y a des choses qui peuvent vous séduire plus ou moins vite. Mais d'ailleurs, je crois, par exemple, que Courgette, c'est un film un peu étrange. Les 5 premières minutes, les gens se disent, est-ce que c'est beau? Est-ce qu'ils sont beaux? Est-ce que je les aime? C'est un tout. Moi, j'aurais du mal à dissocier.
C'est des petits personnages. Il faut dire qu'ils ont des grands yeux, des nez rouges, bizarres, verticaux.
Ils sont cernés.
Des petites marionnettes étranges.
Ouais, ouais.
Et on dit qu'on s'y projette davantage, en fait. C'est ce que dit Claude Barras, qui a réalisé Ma vie de courgette.
Ouais, on s'y projette davantage parce qu'il ressemble à personne d'autre. Donc, je crois qu'on est justement un personnage d'un film de DreamWorks. Il ressemble à un autre personnage d'un film de DreamWorks, globalement. Donc, c'est effectivement ce standard. On est censé s'identifier à ça, bon, ou pas. Au contraire, ne pas s'identifier, se protéger. Là, soudainement, on rencontre quelqu'un, quoi. Et on se met à s'intéresser vraiment à ce petit personnage. Il n'y a que lui qui existe comme ça sur Terre, quoi. Et je pense que du coup, on se protège moins et qu'on se fait plus savoir. qu'on est beaucoup plus ému.
Didier Brunner, Céline Sciamma nous dit qu'elle espère, qu'elle s'attend à être ravie par les films en compétition au Festival d'Annecy. Mais vous, qu'est-ce qui vous a ravi et qu'est-ce qui vous a embarqué dans un projet de film d'animation, donc a priori notamment adressé aux enfants, intitulé « Les nazis, mon père et moi ».
C'est un livre d'un romancier américain qui n'est pas du tout un best-seller qui m'a contacté d'ailleurs et qui m'a pendant 2 ans régulièrement téléphoné pour me convaincre en me disant que si ça devait être adapté au cinéma, ça devait être en animation et ça devait être on devait le faire ensemble. Et j'ai fini par craquer. C'est un thriller qui se passe en 41 à New York. C'est une espèce de nuit du chasseur en animation, avec comme dans Marathon Man, des horribles espions qui en veulent. C'est une sorte de cauchemar dans lequel les deux enfants se retrouvent plongés, où en toile de fond il y a l'Holocauste, la Seconde Guerre mondiale, et tout ça est sur fond d'une histoire tendre entre une petite fille juive et un petit garçon allemand qui lui n'est pas juif, mais dont le père est venu se réfugier à New York. Voilà, bon, j'en dis pas plus. En tout cas, ce qui m'a séduit, c'est vraiment et l'univers graphique et l'histoire qui était un thriller qui pourrait tout à fait être tourné en fiction, mais je trouve qu'en animation, il a d'un seul coup, c'est une fable.
Ping-pong. C'est presque fini, ils vont pas se marier, ils n'auront pas beaucoup d'enfants, mais on va les réécouter quand même.
Des poussins peut-être.
C'est un renard qui rêve de devenir une poule. Un renard transgenre, qu'on appelle maman. Et du coup, ça lui révèle sa véritable identité. C'est-à-dire qu'il savait pas, mais il était pas renard, il était poule en fait.
Moi je trouve ça toujours bon signe quand l'âge d'or est devant.
Et les petits poussins ne s'y trompent pas.
C'est chimiquement merveilleux.
Tendre, gentiment méchant. Gentiment décalé, je m'identifie totalement à ce grand méchant renard.
Intéressant.
Gentiment méchant et méchamment gentil, merci à tous deux, Céline Sciamma, Didier Brunner. Didier Brunner, vous êtes le producteur du Grand Méchant Renard de Benjamin Renner et Patrick Imbert qui sera en salle le 21 juin. Quant à vous, Céline Sciamma, vous serez à partir de lundi présidente du jury long métrage du Festival International du film d'animation d'Annecy. Et Ma vie de courgette est en DVD.
Le ping-pong est un conte radiophonique animé qui s'écrit en équipe et quelle équipe à la rédaction Aïssa Twendoy, Jeanne Aléo, Seam Boutata et Anna Baron, à la réalisation Thomas Beau, à la prise de son ce soir Alex Dang et Pierre Faucillon.
Lundi dans Ping-pong, la vérité mais aussi le cinéma sont dans le vin.
Je rappelle que vous retrouverez sur France Culture, bientôt ce sera à la fin du mois de juin, dans l'émission Mauvais Genre de François Angelier, une spéciale sur le cinéma d'animation, y compris ses déviances, avec entre autres Laurent Vallière, donc qui publie Cinéma d'animation French Touch aux éditions La Martinière. Et puis rendez-vous demain ici à la maison de la radio, dans le studio 105 pour les masterclass, avec entre autres le cinéaste Olivier Assayas, la chorégraphe Mathilde Monnier et le patron de la Comédie Française, Éric Ruff.